bien, nous sommes ici au kilomètre 248 depuis la source de la Seine et nous sommes dans une petite rue qui descend à Créteil, à l'écart. On voit Créteil en général comme une ville et ceci est plutôt un village qui ressemble à Montmartre avec des arbres, avec des ormes, avec quelques platanes, quelque chose d'assez méditerranéen et qui descend vers le fleuve en pente douce. Et nous sommes ici dans un endroit absolument extraordinaire qu'on a qualifié de Villa Médicis. Avant la lettre de Villa Médicis non officielle, nous sommes ici à l'abbaye de Créteil. L'abbaye de Créteil est un rêve fraternel, un rêve d'écrivain, un rêve d'artiste, un rêve fourriériste. Et c'est ici, dans cette maison qui est en face de nous, qui a été restaurée, qui est toute blanche avec un grand parc et des communs aux façades mangées par le lierre sur la gauche. C'est ici qu'en 1906, Vildrac et Georges Duhamel, inspirés par l'abbaye de Thélème de Rabelais, décidèrent de fonder un phalanstère d'artistes dans une bâtisse à l'abandon. Et ils s'y sont installés comme les moines de l'ancien temps. Ils voulaient vivre ensemble, comme dans une communauté hippie des années 70, avec femmes et enfants, avec des artistes venus de tous les horizons, dans un esprit très européen, très ouvert, très international. Et il fallait que ce phalanstère puisse vivre, et donc ils ont créé une maison d'édition, et c'est là que se sont rassemblés Picard Ledoux, Jean-Pierre Jean-Jouve, Doucet, ou même Marinetti, et puis pour finir, Jules Romain. La Justice, qui était le journal de Georges Clémenceau, a écrit « Les artisans de Créteil sont artistes pour servir leur idéal et ouvriers pour gagner leur pain ». Et puis ce rêve fourriériste ne se dissipa assez vite et il ne dura pas 2 ans. Les artistes se divisèrent, les artistes mis ensemble ont souvent de la difficulté à vivre ensemble, et ils se divisèrent sur plusieurs choses. Ils se divisèrent sur le rôle des femmes, il y avait ceux qui en tenaient pour les femmes à la cuisine et ceux qui en tenaient pour les femmes égales des hommes, avec des femmes assez remarquables d'ailleurs. Notamment Alban, qui était une artiste que Jules Romain rencontra là et qu'il finit par épouser. Ils se divisèrent aussi à propos des honneurs. Il y avait ceux qui voulaient l'Académie française et ceux qui ne voulaient pas l'Académie française. Et puis, il y a eu, il faut bien le dire, les ambitions de Jules Romain, qui était à l'époque l'infatigable prosélyte de l'unanimisme et qui voulait convertir tout le monde à cette espèce de doctrine étrange qu'il avait inventée. La maison d'édition qu'ils avaient fondée et qui a imprimé ici a publié pas mal de titres avant de fermer, notamment La vie unanime, le célèbre titre de Jules Romain, Artificiel de Pierre-Jean Jouve, et puis même des textes de Mécislas Goldberg, trop oublié aujourd'hui et qui était un écrivain anarchiste qui avait créé le journal Sur le Trimard et dont André Rouvert, l'ami d'Apollinaire, a laissé une eau forte absolument magnifique. Les amateurs de crime, si je puis dire, se souviendront que le fils de Mécislas, qui s'appelait Jacques Mécislas Charrier Goldberg, dit le bandit aux gants gris, a été guillotiné en 22 pour sa participation à l'attaque d'un train et est monté à la guillotine avec ses gants gris en chantant le chant antimilitariste « Gloire au 17e », chant à la louange des mutins du 17e régiment d'infanterie. Plus tard, l'aventure de l'abbaye est totalement tombée dans l'oubli et n'a été retrouvée que par des auteurs et des critiques américains dans les années 60 qui en ont fait l'ancêtre des communautés de Californie, quelque chose qui pourrait ressembler, vous savez, à la chanson d'Yves Simon dans San Francisco, « C'est une maison bleue accrochée à la colline ». Voilà. Alors nous sommes dans la maison bleue, qui a d'ailleurs des volets bleus accrochés à la colline. Et cette aventure a été décrite, on le sait, par Georges Duhamel dans un livre un peu amer qui s'appelle « Le désert de Bièvre ». C'est pour moi l'occasion aussi d'évoquer un personnage qui est lié à l'histoire de la Seine et qui est lié à la nostalgie de Paris et de la Seine, qui est Stefan Zweig, dont vous vous souvenez qu'il s'est suicidé après avoir appris au Brésil l'entrée des Allemands dans Paris en 1940 et qui est l'auteur du magnifique Monde d'hier. Dans le Monde d'hier, on trouve un portrait de l'un des protagonistes de cette aventure qui s'appelait Léon Bazalgette, que Zweig avait connu par Vereren. Il dit simplement, Zweig, dans le monde d'hier, c'est seulement dans l'amitié spirituelle avec les vivants que l'on pénètre les vraies relations entre le peuple et le pays. Tout ce qu'on observe du dehors reste une image inexacte et prématurée. Et Zweig décrit dans le monde d'hier, à partir de Bazalgette et de cette aventure de l'abbaye de Créteil, décrit une sorte d'Atlantide parisienne et qui était absolument extraordinaire. C'était des gens qui, d'une certaine manière, pour lesquels, bien qu'assez pauvres pour la plupart, le travail restait une malédiction. Il n'y avait pas de rendement comme aujourd'hui, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de publicité. On ne cherchait ni l'assentiment du public, ni les grands tirages. Les femmes, écrit Zweig, étaient paisibles et fraternelles. Seul celui qui a vécu dans ces milieux en ami, en camarade, sait ce qu'est la France véritable. Et Bazalgette fut... dans cette époque de l'abbaye de Créteil, pour Zweig, un ami incomparable, c'était le traducteur de Whitman et de Thoreau, et qui se prit de passion pour la première révolution russe, et commença à écrire pour l'humanité et puis pour Clarté. C'était le moment vers 28-30 où Saint-Exupéry publiait Courrier Sud et où Malraux publiait Les Conquérants. Et c'est ainsi qu'on peut penser ici à ce changement d'époque où au rêve de l'amitié, d'une amitié assez apolitique d'une certaine manière, a succédé dans les années 30 le rêve de l'action. Pour moi, l'aventure de cette abbaye de Thélème, qui était l'abbaye de Créteil, reste inséparable du livre de l'un des auteurs qui a vécu ici et qui était Jules Romain, avec le magnifique Les Copains, dont tout le monde se souvienne. Ces copains sont sept, comme les cavaliers de l'Apocalypse, ils vont à vélo dans la nuit et ils infligent au monde bourgeois toutes sortes de tourments, montant des canulars, ayant trait à la prise d'assaut d'une caserne par de faux envoyés du ministre de la Défense, enfin du ministre des Armées à l'époque, une fausse inauguration de statue, un faux sermon prononcé dans une église et invitant aux rutes orgiaques la totalité des paroissiens. Et au fond, c'est ici aussi qu'on peut mesurer tout ce que Les Copains doit à ce retrait du monde, à cet écart, à cette drôlerie, par lequel tout un ensemble d'artistes et d'écrivains ont voulu prendre de vitesse, non pas seulement les crustacés eux-mêmes, comme disait Gide, qui divisait le monde en subtils et en crustacés, prendre de vitesse ce monde et aussi s'écarter par l'immobilité de ce monde voué au culte d'idoles absurdes qui sont la seule cause des maux dont nous cessons de nous plaindre. Et au fond, chaque moment de l'histoire attend Les Copains de Jules Romain. Il y a quelques années de ça, sur France Culture, à la fin du siècle dernier, Jean Lebrun machinait des farces pour le 1er avril qu'on aurait dit tout droit sorties du cerveau des copains de Jules Romain. Conversion de Clovis à l'islam, attestée par le déchiffrement phonographique des débris du vase de Soissons, miracle accompli post-mortem par François Mitterrand, disparition dans le chaos balkanique de la moins connue des républiques yougoslaves, la Vesturi, la vie secrète de l'immense cité de Ponto Combo, entre la maison de Humboldt, la statue de Marguerite Duras et le bistrot chinois, où les nègres d'Alain Perfit ont écrit tous ses livres. Gloire à l'abbaye de Créteil, à Vildrac, à Duhamel, à Jules Romain, à leurs copains. Gloire à Jean Lebrun et à ses amis.